Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Savoir vieillir » est le titre français du Cato Major de Senectute, bref traité philosophique composé par Cicéron en 44 avant notre. Relevant du dialogue moral, l'ouvrage met en scène Caton l'Ancien, répondant aux inquiétudes de Scipion et de Laelius face à l'âge avancé. Ce dispositif permet à Cicéron de défendre une thèse moins naïve qu'il n'y paraît la vieillesse comporte des pertes réelles, mais elle ne devient misérable que si l'individu a fondé son bonheur sur ce qui devait nécessairement disparaître. Le livre examine méthodiquement quatre griefs classiques, la sortie supposée de la vie active, l'affaiblissement physique, la diminution des plaisirs et la proximité de la mort. Son objectif est d'opérer un déplacement des critères de valeur, de la force, du désir et de la reconnaissance immédiate vers le jugement, la mesure, la transmission et la préparation intérieure. Il ne s'agit donc pas d'un manuel médical sur le grand âge, mais d'une réflexion antique sur l'usage moral du temps. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, quatre accusations contre la vieillesse soumises à un examen rationnel. L'architecture de savoir vieillir tient à la réfutation de quatre accusations récurrentes. La vieillesse, dit-on, retirerait toute fonction sociale, affaiblirait le corps, supprimerait les plaisirs et placerait l'être humain sous la menace constante de la mort. Cicéron ne prétend pas que ces transformations n'existent pas. Sa méthode consiste plutôt à demander si elles constituent vraiment des maux absolus. Cette distinction est décisive, une diminution de capacité peut être réelle sans rendre une existence dépourvue de valeur. Le traité critique ainsi une conception de la vie qui identifie le bien à la puissance physique, à l'intensité des sensations ou à l'activité visible. Il montre que ces biens sont instables à tous les âges et qu'ils ne peuvent donc servir de fondement sûr au bonheur. La vieillesse agit alors comme une épreuve de cohérence. Celle révèle si une personne a développé des ressources qui ne dépendent pas entièrement de la vigueur ou de l'approbation autrui. Cette organisation argumentative donne au texte une portée durable. Au lieu de prodiguer un simple réconfort, Cicéron oblige à examiner les présupposés qui rendent le vieillissement effrayant. Le lecteur est invité à modifier son échelle des valeurs plutôt qu'à nier les limites de l'âge. Deuxièmement, rester utile en transformant la nature de son activité. Pour Cicéron, cesser certaines tâches n'équivaut pas à devenir inutile. Il oppose implicitement l'exécution, souvent associée à la rapidité et à la force, à la délibération, au conseil et au gouvernement des affaires. L'âge avancé peut perdre une part de son aptitude aux actions exigeantes physiquement, mais il peut conserver, voire approfondir, l'expérience nécessaire pour juger les situations et orienter les autres. Cette idée s'inscrit dans une vision civique romaine, l'ancien N n'est pas seulement un individu à protéger, il peut contribuer à la communauté par son autorité et sa prudence. Il faut toutefois lire ce point comme un idéal exigeant et non comme un privilège automatique lié à l'âge. Cicéron insiste sur le fait que les signes extérieurs de la vieillesse ne créent pas à eux seuls la respectabilité. L'autorité doit être acquise par une conduite antérieure, une réputation juste et une capacité à servir le bien commun. Le traité évite donc de remplacer le culte de la jeunesse par une idéalisation mécanique des anciens. Son raisonnement demeure pertinent lorsque les rôles sociaux changent avec l'âge. La question N n'est pas uniquement de conserver le même poste ou le même rythme, mais d'identifier les formes de participation adaptées aux compétences accumulées. La continuité de la vie active devient une continuité de responsabilité, de jugement et de transmission. Troisièmement, la modération des désirs comme réponse à la perte des plaisirs. La défense cicéronienne de la vieillesse ne repose pas sur la promesse de retrouver les satisfactions de la jeunesse. Elle soutient au contraire que l'apaisement de certains désirs peut constituer un gain. Les plaisirs les plus intensément corporels sont présentés comme ambivalents, ils procurent une satisfaction immédiate, mais peuvent aussi soumettre le jugement à l'impatience, à la dépendance et à l'excès. Dès lors, leur recul avec l'âge naine n'est pas seulement une privation, car il peut délivrer l'esprit d'une forme de servitude. Cicéron valorise des plaisirs compatibles avec la stabilité intérieure, notamment la conversation, l'étude, les relations d'amitié, les occupations intellectuelles et le rapport à la terre. Le point important est que ces biens demandent une culture préalable de l'attention et du goût. Ils ne surgissent pas spontanément au moment où les plaisirs physiques diminuent. Le texte propose ainsi une critique précise de la compensation. Il ne suffit pas de remplacer une activité par une autre. Il faut apprendre à estimer des joies moins dépendantes de l'excitation et de la performance. Cette analyse peut sembler marquée par les hiérarchies sociales de son époque, car les loisirs qu'elle célèbre supposent des conditions matérielles favorables. Pourtant, son idée centrale reste nette, une vieillesse sereine dépend moins de la multiplication des satisfactions que de la capacité à préférer les plaisirs qui renforcent la liberté de jugement. Quatrièmement, préparer le grand âge par les habitudes du corps et de l'esprit. Savoir vieillir présente la vieillesse comme l'aboutissement d'une trajectoire, plutôt que comme une période isolée. Cicéron reconnaît que le corps perd de sa vigueur et recommande implicitement une conduite mesurée, attentive à la conservation des forces. Mais son propos dépasse largement l'hygiène physique. Le caractère, les habitudes intellectuelles et la manière de désirer façonnent la façon dont chacun éprouvera les limites de l'âge. Une personne qui a toujours vécu dans la plainte, l'envie ou la recherche exclusive des avantages extérieurs risque de retrouver ses dispositions en vieillissant. À l'inverse, celle qui a exercé son jugement, entretenu des liens et donné une place à des activités durables possède davantage de ressources lorsque les circonstances changent. Cette continuité explique l'une des thèses les plus fermes du traité. Il faut attribuer bien des amertumes au tempérament et à la conduite de la personne, non à la vieillesse elle-même. Le propos ne doit pas être lu comme un déni des maladies, de la pauvreté ou de l'isolement, réalité que la vertu ne maîtrise pas entièrement. Il affirme plutôt une part de responsabilité dans la préparation intérieure. La vieillesse révèle et prolonge souvent des manières de vivre déjà installées. L'intérêt pratique du texte réside dans cette invitation à cultiver, avant la retraite, des activités, des relations et des dispositions qui résistent mieux aux pertes inévitables. En dernier lieu, la proximité de la mort et la recherche d'une indépendance intérieure. Le dernier grief traité par Cicéron est le plus radical, la vieillesse serait détestable parce qu'elle rapproche de la mort. Sa réponse combine deux lignes de pensée. D'une part, la mort n'est pas un mal propre au grand âge, puisque toute vie humaine y est exposée dès son commencement. D'autre part, deux hypothèses rendent la peur moins décisive, soit la mort entraîne l'extinction de la sensibilité et ne peut donc être ressentie comme une souffrance, soit elle ouvre une autre forme d'existence de l'âme. Cicéron se montre favorable à cette seconde possibilité, mais son argument ne dépend pas exclusivement d'une certitude religieuse. L'essentiel est de refuser que l'anticipation de la fin détruise le présent. Cette position donne au traité sa dimension de consolation philosophique. Elle ne cherche pas à fournir une preuve définitive sur elle au-delà, mais à discipliner une imagination qui transforme une certitude universelle en menace paralysante. La réflexion sur la mort éclaire aussi les thèmes précédents, celui qui attache tout son bonheur à la jeunesse, au prestige ou au plaisir fragile sera plus vulnérable à leur disparition. Celui qui a ordonné sa vie autour de la vertu et du devoir possède une base plus indépendante des échéances biologiques. La sérénité proposée n'est donc pas l'indifférence, mais une manière de vivre sans laisser la fin future annuler la valeur de l'action présente. En conclusion, savoir vieillir s'adresse d'abord au lecteur qui cherche une réflexion philosophique concise sur le temps, la perte et la place sociale de l'âge avancé. Il intéressera les personnes vieillissantes, mais aussi celles qui accompagnent des proches ou souhaitent penser en amont les critères d'une existence durable. Son bénéfice intellectuel principal est de déplacer le débat au lieu de demander comment effacer les marques du vieillissement. Cicéron demande quelle forme des satisfactions, d'activité et d'autorité restent défendables lorsque la force diminue. Cette démarche peut nourrir une lecture critique des représentations contemporaines qui associent la valeur individuelle à la productivité, à l'apparence ou à la performance corporelle. Le livre doit néanmoins être abordé avec discernement. Il porte les limites de son contexte romain, notamment dans son image d'une vieillesse masculine, instruite et suffisamment protégée des contraintes matérielles. Il ne remplace ni une analyse sociale de la dépendance, ni un accompagnement médical ou psychologique. Sa force se situe ailleurs dans une argumentation brève, structurée et moralement exigeante, qui ne promet pas une jeunesse prolongée. Comparé aux ouvrages modernes de développement personnel sur le bien vieillir, il se distingue par son refus des recettes et par son interrogation sur la vertu, le devoir et la mortalité. Comparé à d'autres textes de consolation, il unit une défense de la participation civique à une méditation sur la mort. Cette articulation fait de savoir vieillir un classique utile pour penser non seulement la dernière partie de la vie, mais la préparation de toute une existence. Si vous souhaitez soutenir Cicéron, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.